Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à Canal M pour l'émission Porte-parole. Avec l'émission, on veut vous toucher, vous inspirer, vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, vous faire découvrir le sens de sa vie et aussi du but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Viktor Frankl disait « L'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. » Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie à chaque jour et à chaque heure. Anne-Marie Cadieux, bonjour.
Bonjour Jean-Marie.
Tu me regardes avec des beaux yeux tendres, avec un sourire. C'est très le fun de se faire regarder de même.
Ah ben toi aussi, je dois te dire, t'es tout...
T'es cute.
C'est un échange.
Hein? Ouais.
Hein? Ouais.
Écoute, ça m'avait complètement sorti de la tête. Mais on a joué dans Miss Météo ensemble.
Hey, je m'en souviens pas, moi non plus.
Ah oui, écoute, ben, c'était un rôle,
hein?
Un épisode.
Ah, c'est ça?
Puis c'était un épisode, puis je faisais probablement partie de ton harem de prétendants.
Ah ouais?
Oui, oui, puis à un moment donné, on avait passé la nuit ensemble, puis le lendemain
ben,
matin...
Ben voyons, ça que je me souviens pas de ça.
Ben écoute, c'était très court, puis le lendemain, tu sais, genre là, ben tu te débarrassais vite de moi, ouais, vite, puis tu me cries ça à la porte. C'est le seul contact qu'on a eu professionnel ben, ensemble. Ça a duré combien de saisons, ça, Miss Météo?
Bien, tu sais, il y a eu le téléfilm, puis après ça, il y a eu la... Fait que tu dois être dans le téléfilm, toi, d'après moi, ou en tout cas... Après ça, il y a eu trois saisons, quelque chose comme ça.
Oui, moi, j'ai jamais vu ce que j'ai fait
ben,
avec
ça.
Toi.
Bien, regarde.
Donc, toi, tu l'as oublié,
ben, j'ai,
moi, j'ai jamais vu.
Ça fait longtemps, puis il y a beaucoup de monde qui est passé. Fait que tu sais pas que je t'ai oublié parce que t'es inoubliable, mais c'est peut-être ma mémoire qui flanche, tu sais, tu
comme
comprends?
Une séductrice en série. Qui
moi,
a eu tellement d'amants
ah oui,
qu'il
ne
peut pas se souvenir
mon
de
rôle.
Tout.
Ah ben ça, ça arrive dans la vie aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non,
je ne serais pas étonné. Je serais pas étonné avec toi parce que tu es extraordinairement douée comme actrice, mais en même temps, à chaque fois que je t'entends à la radio, moi, je t'avais entendu avec Pénélope McQuaid, je t'ai entendu encore récemment avec Nos Fous, là, Jean-Philippe Vautier, puis toute cette belle gang, puis t'es quand même une régulière, je t'entends assez régulièrement.
Ouais.
C'est le fun, hein?
Ouais.
Faire ça, c'est le fun.
Quand même, hein? C'est un peu étonnant que je me sois retrouvée à faire de la radio un peu comme ça, de façon, tu sais, complètement néophyte, là. Mais, tu sais, c'est drôle parce que c'est un métier de rencontre, hein?
Oui.
Tu penses pas, c'est ça? Parce que nous, c'est une rencontre aussi. Je pense que tu m'as approché pour dire aux auditeurs et auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, parce qu'on nous écoute de toutes sortes de plateformes. C'est que tu m'avais entendu à Pénélope, je pense, parler un peu de ma vie. Puis là, tu m'as appelé pour dire ce que tu veux faire, mon émission. J'ai dit oui, tout de suite, parce que bon, tu sais, je te trouve hyper sympathique, puis je trouve que ce que tu fais est vraiment admirable, puis ça. Puis après ça, j'ai vu que ton émission s'appelait Porte-parole. Puis là, j'ai dit, Jean-Marie, je veux pas venir parce que je ne suis plus porte-parole. Tu m'as dit, c'est pas grave, je veux discuter avec toi. Mais je te disais, ton émission s'appelle Porte-parole, mais t'as fait, c'est pas grave, Anne-Marie. Donc, juste pour dire quand même que... On va peut-être sortir des sentiers battus aussi, tu sais.
Et tant mieux, parce que c'est pas non plus le syndrome de l'imposteur, dans le sens que tu dis « Hey, je fit pas, je suis pas porte-parole », mais tu l'as été quand même beaucoup et particulièrement relié dans le domaine des arts, porte-parole d'un festival de films, de cinéma, de théâtre.
Oui, ça, je l'ai été, mais j'ai aussi été quelque chose qui peut-être qui est plus près de ce que font les gens que tu approches. J'ai été aussi ambassadrice, un peu porte-parole du CECI, qui est le Centre d'études et de coopération internationale, qui vient en aide, tu sais, qui aux femmes, surtout dans des pays où elles en ont bien besoin, sous-développées. Donc, qui est vraiment au cœur de sa mission, l'équité entre les hommes et les femmes. Mais beaucoup les femmes, tu sais, c'est ça, aider les femmes économiquement, être autonome, puis je suis allée en Afrique pour ça. Tu sais, je suis allée quand même... puis j'ai fait des levées de fonds, tout ça. Donc, je suis allée rencontrer les femmes au Burkina Faso, en Afrique. Ça a été vraiment important pour moi de faire ça. C'est donc, ça... J'ai fait ça pendant plusieurs années, puis ça s'est terminé par ce voyage-là, où on est allé voir le travail que ceci fait.
Ça, c'était avant la pandémie?
Ben oui, effectivement. Donc, un petit peu avant la pandémie, quand même pas... Quelques années avant la pandémie,
Mais moi, je me souviens, parce que moi, je suis allé au Guatemala pour faire un genre de stage d'aide humanitaire.
Ouais.
Et j'ai rencontré des coopérants là-bas, des Québécois. je m'étais promené. Puis, tu sais, écoute, je t'ai fait faire un voyage dans le temps. En 1997, il y avait le salon Pepsi Jeunesse. Puis,
okay.
Moi, j'étais ambassadeur, porte-parole du Ceci. Tout comme
ah,
toi,
okay.
À ce moment-là. Après ça, quelques années après, il y a eu Locke Merville. Toi, tu l'as été pendant je ne sais pas combien d'années. Mais j'ai été aussi sur le terrain.
Ouais.
Et on faisait tirer un voyage d'aide humanitaire à un jeune qui allait avoir une initiation.
Quelle bonne idée.
Oui, alors on est allé là pendant 2 semaines, en 97. C'est la seule... Le voyage que je devais faire par la suite, 2 ans après, c'était d'aller en Équateur, mais il y a eu des problèmes au niveau de...
Politique.
Politique, exactement.
Mais c'est comme nous, au Burkina, avant d'y aller, on a retardé parce qu'il y avait... C'est ça, il y avait des problèmes politiques, il y avait... Donc, on est allé plus tard, puis les gens me disaient, vas-y pas, c'est dangereux, mm-hmm. Mais je me disais, non, regarde, on peut y aller quand même, là, on va être protégés, puis tout ça, donc...
Ben ouais.
Ouais, c'est fou. Mais c'est intéressant. Puis tu te souviens-tu du jeune qui était avec vous autres?
Oui, j'ai perdu contact avec lui, mais c'était quelqu'un de la Rive-Sud. Il venait de Varennes. Et puis, je me souviens, puis c'était un gars assez intérieur, parlait pas beaucoup, mais ça l'avait évidemment brassé parce qu'on était confrontés à une certaine pauvreté matérielle,
exactement.
Mais d'une belle richesse de cœur chez les gens. Là, tu sais.
Mais ça, je trouve que c'est tellement important... que les jeunes soient ouverts à d'autres réalités. Moi, j'avais vu à un moment donné, dans une émission de télé, je pense que c'est National Geographic, il y avait pris 2 familles, une famille américaine aisée.
Ouais.
Tu sais, toute la famille, là. Puis, ils les avaient amenés en Afrique, dans un village. Puis au départ, tu vois, les enfants sont pas contents. Écoute, ils sont vraiment dans une tribu éloignée, là. Puis tu sais, ils n'ont pas de commodité, puis il n'y a rien... Puis tu vois ce qui se passe avec ces enfants-là, puis quand ils partent, ils pleurent, là. Ça pleure parce que là, tout à coup, ils sont en contact avec, tu sais, avec le village. Il y a des rapports humains, il n'y a plus d'écran, il n'y a plus rien de ça, là. Puis au début, ils sont là, on n'a pas de toilette, on n'a rien. Puis à un moment donné, je me souviens que c'était ce qui était important pour... Parce que sinon, tu n'as plus d'eau, là. Oui. Puis il a pleuré.
Ah,
puis...
ouais.
Donc, de t'ouvrir à d'autres réalités quand tu es enfant, c'est vraiment important. Après, tu transportes ça toute ta vie. C'est sûr que... Puis ma nièce aussi, tu sais, ils en font des voyages, hein, chez les jeunes aux écoles secondaires. Elle est allée en Afrique aussi. C'est sûr qu'elle avait vécu en Afrique.
En direction sud-ouest vers
Saint-André. Ah, mais ça, c'est mon guide qui m'amenait vers toi. C'est fantastique, hein?
Ça, il n'y a pas ça au
Burkina Faso. C'est fou, c'est ça. Ben, il y en a, c'est encore surprenant de voir les femmes en moto avec leur cellulaire. Ça, ils sont passés directement au cellulaire. Il n'y a pas eu de téléphone.
Ah, c'est drôle.
Oh,
hein.
Oui.
Mais tu sais, tu parlais de ta nièce, justement, elle aussi.
Oui, elle est allée, puis tout ça. Puis tu sais, c'est ça, là, tu vis pas comme... Mais ma sœur a vécu au Burkina Faso avec ses enfants, mais dans un contexte un petit peu plus, tu sais, quand même privilégié, géologue, tout ça, mais... Elle a fait un voyage, ma nièce, plus tard. C'est ça, un voyage qui l'a obligé de se confronter à son confort et tout ça. Puis je pense que c'est vraiment important.
Et toi, ton implication avec le Ceci, c'est arrivé comment, ce mariage-là?
Bien, moi, on m'a approché. Moi, on m'approche, puis il faut qu'on m'approche. Oui, c'est ça. Si on m'approche, mais je me rends compte qu'il faut que les gens soient assez convaincants. Tu sais, c'était France-Isabelle Langlois, qui est maintenant Amnesty International, qui m'avait approché au départ pour faire des lectures de femmes guatémaltèques qui avaient été utilisées comme... Tu sais, on sait que le corps de la femme, c'est une arme de guerre, hein, c'est-à-dire que, tu sais, on viole les femmes, on les utilise en temps de guerre. Puis c'était des correspondances entre des femmes québécoises et des femmes guatémaltèques. C'était très, très, très émouvant. Donc, j'avais participé à une soirée comme ça où je lisais cette correspondance-là avec d'autres gens, tu sais.
Wow.
Puis ça, c'est vraiment quelque chose, le corps des femmes comme territoire que tu occupes, tu sais. En temps de guerre, là, c'est vraiment ça, là. Tu décides que tu vas, soit qu'elles tombent enceintes, soit que tu les tues, soit que tu les veux. C'était très, très, très dur. Fait qu'elle avait cette façon de nous approcher par la bande, hein. C'est-à-dire que j'ai fait ça, puis après ça, elle disait, est-ce que ça t'intéresserait d'être ambassadrice? Puis, tu sais, j'ai dit oui. En fait, c'est toujours ça, c'est que les gens nous approchent, puis là... Il y a un lien qui se crée, puis la cause nous tient à cœur, puis on participe. Il y a toujours quelqu'un au cœur qui vient nous chercher.
Mm-hmm.
Puis là, tu sais, moi, je suis pas comme toi. Toi, je sais que tu as beaucoup de causes que tu embrasses, hein, non? Oui. C'est pas ça un peu ta vie aussi, au-delà de ce que tu fais, c'est-à-dire que c'est, ça prend une grande part de ta vie.
Oui, puis je pense que c'est un besoin aussi. Je me définis pas dans mon rôle de porte-parole, mais ça ajoute tellement d'éléments importants, des valeurs, des ancrages. Parce que tu le sais, notre métier, on est porté au nu, on va gagner des Gémeaux, on va se faire applaudir. C'est pas tant réel. Ouais. C'est une autre réalité. Tandis que quand tu es impliqué avec des personnes en situation d'itinérance, des enfants en fin de vie, toutes sortes de causes, tu te dis « Oh my God, mais c'est ça aussi la vie. » Puis ça me nourrit. Donc, j'imagine que pour toi, de fil en aiguille jusqu'au voyage au Burkina Faso, je veux dire, plus on parlait de ceci, plus tu devais te sentir habité par « OK, ça c'est bon, j'en veux plus. »
Bien, tu te sens, c'est vrai que bien, c'est aller à la rencontre de l'autre aussi, comme je disais. Puis aussi, aller en Afrique, c'est voir la différence, c'est quelle sorte de... qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que vraiment... Puis au début, tu sais, tu t'assures que les dons, tu sais, il y a tout ça. Quand tu deviens porte-parole ou ambassadeur d'un organisme, tu vas être sûr que l'argent va au bon endroit. Tu veux pas que ça soit juste, ça paye des salaires, puis que, tu sais, il y a tout ça, là. Donc, puis c'est sûr que c'est un peu plus loin de nous, mais ça reste des femmes. Moi, c'est toujours quelque chose qui me parle, les femmes, dans le monde entier, parce qu'on voit le recul. En ce moment, je regardais, c'est drôle, hier, tu sais, je regardais qu'en Irak, il y a une loi qui va être votée que les hommes peuvent épouser des filles de 9 ans, là, tu sais, je veux dire, c'est un recul de... Tu sais, fait que, tu sais, il y a des choses qui se passent sur la planète, on sait en Afghanistan, tout ça, tu sais, il y a vraiment, c'est le recul, même ici, tu sais, le droit des femmes à l'avortement, fait que, tu sais, ce qui concerne les femmes, moi, étant femme, c'est sûr que ça me préoccupe. Il y a d'autres choses qui me touchent, là, mais bon. Mais là, de voir aussi, puis ce qui m'avait surpris aussi, j'avais demandé quand j'étais sur place, parce que c'est assez artisanal, la façon dont les femmes travaillent, puis la façon dont l'aide est apportée. Puis j'avais demandé justement à France-Isabelle Langlois qui s'occupait du CECI, comment ça se fait qu'on donne pas des moyens plus industriels, plus avancés? Elle m'a dit, faut aller avec le rythme aussi. Tu peux pas faire du dumping, tu sais.
Non.
Faut vraiment, c'est comme l'excision, tu sais. Tu peux pas arriver à te dire c'est pas bon parce que les gens ont des croyances que c'est bon. Il y a des femmes qui gagnent de l'argent avec ça. Fait que c'est toute la sensibilisation. Il faut aller parce que si tu vas trop vite, t'arrives pas à... Ça se fait pas bien.
Tu
alors,
peux pas imposer.
Exactement. Tu peux pas imposer. Il faut que tu accompagnes, puis il faut que ça se fasse de façon organique, puis il faut que ça se fasse... Ben là, j'ai appris des choses, tu sais, aussi là-dessus. Tu sais, tu peux pas... Donc, tu sais, il faut que les femmes puissent... Mais j'ai rencontré une femme extraordinaire parce qu'elle me racontait... C'est une jeune femme de 30 ans, puis elle me racontait... C'est ma mère qui m'a envoyée à l'université en vendant des légumes puis en travaillant la nuit. Puis elle s'est mise à pleurer. Sinon, tu sais, j'aurais jamais pu faire ça. Wow. Fait que le courage des femmes, elles ont des enfants, elles continuent à travailler. En plus, elles ont toutes leurs tâches aussi parce que, tu sais, à la maison, c'est des doubles. Fait que, tu sais, la force des femmes, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée. Ouais.
Ça devait non plus aussi, c'est-à-dire... être confrontant, je veux dire, tu sais, quand t'arrives avec tes yeux d'occidental puis tu débarques dans une autre contrée avec un autre bit de vie, d'autres types de valeurs, je veux dire, à chaque fois qu'on fait des voyages, que ce soit d'aide humanitaire ou dans des pays qu'on considère comme des pays plus en développement, je veux dire, c'est confrontant pareil.
Ouais, mais il y a plus de choses qui nous unissent, moi, je trouve, tu sais, parce que ces femmes-là qui sont là, tu sais, il y a plein de femmes super intéressantes, puis elles ont toute une pensée sur l'avenir, puis... Fait que, tu sais, moi, je trouve toujours que, malgré tout, je veux dire, on est tous des humains, là. Fait que, tu sais, il n'y a pas tant de barrières. J'ai pas senti une barrière entre elle et moi, sincèrement. Puis, tu sais, je sais pas, peut-être parce que je me suis promenée aussi dans ma vie un peu. Fait que, tu sais, c'est sûr que je vois pas... puis même, je pourrais dire qu'au contraire, quand je suis arrivée en Afrique, j'ai pleuré, là, de me dire, là, je suis au début, là, je suis au berceau de l'humanité. Ça, j'étais vraiment contente d'être là. Les surprises sont plus au niveau comment les gens vivent, puis tout ça, puis te rendre compte aussi que, oh oui, tu te rends compte quand même qu'on est très, très, très privilégié.
Ici, ah, ben, mais ça t'a pas perturbé à ce point-là en dedans de toi?
Ben, comment dire? T'sais, on est quand même... T'es quand même dans un environnement où il y a des gens qui apportent de l'aide. Tu sais, si je pense que si je voyais des sweatshops, si je vois de la tu sais, les gens qui font de l'esclavage, cyber-esclavage, tout ça, tu sais, quand tu arrives dans des environnements où les gens... du trafic humain. Je veux dire, là, je pense que je trouverais ça vraiment difficile. tu sais, je veux dire, on le sait ce qui arrive dans le monde, là, tu sais. Puis il y a des choses, puis on s'en dépasse, puis il y a d'autres types de... Tu sais, là, je pense que je suis pas sûre que je tiendrais le coup. Mais là, tu es quand même dans un environnement où d'espoir, puis d'optimisme, puis que tu donnes des outils à des femmes. Fait que c'est pas des... C'est pas, là, t'es pas dans le plus bas de l'humanité, où est-ce qu'il n'y a plus d'humanité, c'est ça que je veux dire. Où est-ce que c'est horrible, c'est quand tu penses que l'être humain vaut vraiment rien, là, tu sais, puis il y en a qui pensent ça. Ou, tu sais, les passeurs qui passent des réfugiés, tu sais, les gens qui quittent leur pays, puis qu'ils s'en foutent, là, que tu meurs ou pas. Tu sais, je veux dire, quand tu vois ça te décourage un petit peu.
Oui.
Alors, faut, tu sais, tu comprends.
C'est pas comme le général Dallaire, Roméo Dallaire, qui a vu des atrocités. Ouais. J'ai rencontré des gens dans un avion récemment qui étaient des coopérants. Ils avaient été au Rwanda, au Burundi, juste avant que ça éclate. Ouais. Et pendant que ça éclatait, ils ont été, évidemment, escortés pour qu'ils quittent le pays, mais ils ont eu le temps de voir des atrocités à coups de machette.
Ouais, c'est pour ça que je dis que là, on n'est pas là. C'est pour ça que je dis quand même, c'est dans un contexte où c'est plein de lumière, puis c'est plein d'optimisme. Là. Alors là, ça, je pense que il y a quand même toute une partie noire de l'humanité que c'est plus difficile. Puis ceux qui viennent en aide à ces gens-là, je les admire énormément, là, parce que ça, c'est tu t'attaques à des systèmes qui sont énorme, tu sais.
Mais ça, c'est des vrais missionnaires. C'est des gens qui ont une vocation dans l'humanitaire et c'est ancré en eux, là. Ce que toi et moi, on l'est pas, on est sensible. On va se servir intelligemment de la lumière que nous avons sur nous, puis on va l'échanger, puis on va la donner, on va la partager à des causes qui sont dans l'ombre.
C'est différent. Ça, c'est des gens qui travaillent à temps plein, là, pour démanteler des réseaux, pour sauver des gens, puis tout ça. Fait que ça, c'est autre chose, là. Puis, puis des fois, on veut pas voir ça. Tu sais, regarder cet aspect-là du monde dans lequel on vit, parce qu'on sait aussi que même, regarde, quand notre cellulaire, on sait qu'il y a peut-être des enfants qui vont chercher du coltan dans des conditions qui sont pas idéales, tu sais. Je veux dire, regarde, puis tu sais, on sait que nos privilèges dépendent du fait qu'il y a une partie du monde qui eux, travaillent pour nous. Fait que ça, c'est dur parce que qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Il y a toujours ça, le sentiment d'impuissance, parce que c'est des, tu sais, c'est des grandes thématiques, mais c'est ça. Alors là, notre action, si petite soit-elle, au jour le jour, évidemment, je pense que c'est ça que tu valorises. Ben tu sais, c'est quelque chose qui est, tu sais, semer la joie malgré tout, tu sais, puis semer aussi, tu sais, puis aussi sensibiliser, lever des fonds, tu sais, réfléchir, c'est des choses qui...
Ben, tu sais, ce que j'aime dire, Anne-Marie, c'est j'aime mieux faire une petite différence que de rester dans l'indifférence, tu sais.
Ouais.
Qu'elle soit volontaire ou pas, consciente ou pas, cette indifférence tue. Alors ça, je pense que t'as assez de bagou, t'as assez de caractère pour... En tout cas, c'est ce que tu dégages d'emblée. Tu veux faire vibrer les gens, tu veux bouger et tu veux que ça brasse un peu. T'es pas une mitaine, bref.
C'est gentil. Mais tu sais, j'en fais pas. Tu sais, je voulais pas venir ici parce que je me dis, j'en fais pas assez, mais c'est pas grave parce que je me dis, j'en ferai peut-être plus après ou j'en fais à la hauteur. On en fait aussi dans le quotidien. Tu sais, on parlait du fait que mes parents sont décédés. Fait que, tu sais, pendant les périodes où tes parents sont en âge plus avancé, où tu t'occupes d'eux, ben, tu sais, ça prend beaucoup de temps aussi. Tu sais,
c'est comme quand tes parents, je veux dire, si toi-même, t'es papa ou t'es maman, ton bénévolat, c'est tes enfants.
Exactement. Tu sais, c'est du temps plein, ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que... C'est ça, moi, j'ai accompagné mes deux parents dans la mort, tu sais, les dernières années. Fait que ça, c'est ça. À un moment donné, tu sais, t'es là-dedans, tu sais. Fait que c'est sûr, comment tu conjugues ta vie. Fait que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui en font beaucoup, qui en mènent large, là, qui s'impliquent, là, tu sais.
Serais-tu ouverte à quelqu'un cogne à ta porte en te disant, nous autres, on a une petite maison de fin de vie, on cherche une ambassadrice, une porte-parole. Est-ce que c'est quelque chose qui te ferait vibrer, ça, vu que t'as connu l'accompagnement de tes parents?
Oui, certainement. Mais moi, je suis ouverte à beaucoup... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous animer. Moi, les petits frères de 2 ans, puis, tu sais, je côtoie... C'est le fun, ça, tu sais, je les côtoie énormément. Puis, tu sais, on sait que, bon, il y a des enfants qui mangent pas. Tu sais, les conditions économiques sont pas en ce moment. Fait qu'il y a les enfants, bon, il y a l'itinérance, il y a la santé mentale. Il y a tellement... Tu sais, finalement... Tu sais, ça dépend, comme je dis, je pensais au phare, où est-ce que, tu sais, je suis sensible au phare. Je ne sais pas si oui. tu connais ça.
Enfant-famille?
Oui, enfant-famille. J'avais été très touchée par... j'avais vu un reportage que Patrice Roy avait fait au téléjournal, puis oh mon Dieu, tu sais. C'est là que des fois, on est touché, puis là, j'ai fait un don, tu sais.
Ouais, ouais.
Puis après, j'avais joué pour eux. Tu sais, quand on est appelé à jouer des quiz, on nous demande pour qui vous voulez lever des fonds. Fait que moi, souvent, c'est le phare, parce que je trouve que c'est un... C'est pas petit, mais c'est pas grand. Puis aussi, c'est ancré dans la communauté, puis ça vient en aide aux familles. Aussi, je trouvais que c'était vraiment original. Puis c'est des enfants qui sont en soins palliatifs. Donc, en fin de vie, c'est quelque chose qui est triste, mais qui est plein de lumière parce que malgré tout... Mais tu sais, je suis toujours épatée quand même. Tu sais, on parlait du côté sombre de l'humanité, mais ouais. il y a aussi tout le côté solidarité. Moi, je suis toujours émue aussi dès qu'il y a des événements, catastrophes. Les êtres humains sont là les uns pour les autres. Fait qu'il y a toujours ça, tu sais.
Les bouddhistes diraient, c'est la nature profonde et humaine.
Oui, de venir en aide. Ben
oui. Notre bonté fondamentale.
Si notre voisin, il arrive quelque chose, on va aider, tu sais, c'est sûr.
Je ne pose pas de questions.
Moi, c'est la chose qui me fait presque le plus pleurer, les gestes de solidarité, ouais. tu sais, parce que tu te dis, ben, dans tout ça, il y a toujours ça. Il y a un être humain qui va en aider un autre. T'sais.
C'est drôle parce que c'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de beauté. On est touché par la beauté.
Ah oui, on est touché par la bonté. Oui,
vraiment.
Aussi, par la bonté.
La bonté, la beauté de l'être humain. Puis on voit ces gestes-là. Et ça, j'avais vu scientifiquement, c'est que ça nous fait donner une shot de dopamine, de
ouais.
sérotonine.
La sérotonine, pas
de sérotonine, de la dopamine, ça, c'est de l'intensité, là, c'est autre chose. Mais la sérotonine, cette espèce d'hormone d'attachement, de compassion, c'est le fun de voir ça. Puis moi, là, je me tanne jamais quand j'ouvre mon téléphone, je tombe sur des vidéos sur Instagram, sur Facebook, de gestes de bonté. Je me dis, oh, wow, j'en veux plus de ça. Ouais. J'en ai besoin.
Oui, oui. Puis aussi, ça peut être des petits gestes. C'est drôle parce qu'on se dit toujours que... Ça m'a surprise quand les gens disent « Ah, quand les itinérants nous demandent de l'argent dans la rue, puis Dieu sait qu'il y en a beaucoup maintenant. » Puis bon, tu donnes pas toujours d'argent, mais tu peux toujours bien faire un sourire. Puis parce que j'entendais que les gens, non, ils veulent pas leur... T'sais, puis je me disais ben, « Ça coûte rien de dire bonjour, excuse-moi. » Des fois d'en donner, des fois
ben
de...
Ouais.
Tu sais, l'humain, là, c'est... Moi, c'est au cœur de nos vies tous les jours. Là, c'est du contact humain. C'est que ça, le rapport à l'autre dans les petits moments, les grands moments, mais les petits moments du quotidien. Là, fait que, tu sais, bon, regarde... Puis c'est sûr que ça, c'est un métier. Nous autres, on fait ce métier-là. C'est un métier, j'espère, d'empathie et d'ouverture.
Mm-hmm.
Pas de conformisme, aussi de vouloir être ouvert à toutes sortes de réalités, puis de ne pas juger, puis de pas... Puis ça pourrait tous nous arriver.
Ça,
sincèrement,
ouais.
je le crois. Mais profondément, je dis pas ça comme une... comme ça, un truc en l'air. Tu sais, la frontière, là, on l'a vu, il y a des gens, la frontière est mince, là.
Écoute, cette année, au micro, j'ai eu Étienne Boulay. Puis Étienne Boulay, qui est un joueur de football professionnel, qui gagne très bien sa vie comme homme d'affaires, puis comme... artisan des médias, tu sais, il a quand même côtoyé un gars qui s'est ramassé dans la rue, qui a joué au football, tu sais, une vedette de la Ligue canadienne de football.
C'est ça.
Je vais le nommer parce qu'on en a parlé dans les médias, puis on a fait une émission sur lui avec la série Face à la rue. Le gars, il s'appelle Rassan Giddings. Il a quand même connu la déchéance jusqu'à se ramasser dans la rue.
Ouais.
Et malgré le fait que, comme nous, toi et moi, on se fait applaudir, on se fait porter au nu, et il y avait probablement d'immenses fragilités, des prédispositions à sombrer dans l'addiction qui l'a amené
ça. C'est
à la
sûr.
Rue.
Oh, oui. Oh,
donc,
oui.
la ligne est mince entre qui est du côté du comptoir alimentaire. Moi, toi, tu sais, je le fais. Moi, je donne à manger dans des comptoirs alimentaires, dans des ressources en itinérance, puis je me dis, Christy, que la ligne est mince entre c'est moi qui est de l'autre côté,
ben,
puis
oui.
c'est moi qui reçois le cabaret. Là.
Mais pour vrai... Puis de plus en plus, tu sais, on le voit parce que le coût de la vie qui augmente, parce que, tu sais, tout ça. Donc, les gens... Tu sais, fait c'est toi. Tout peut être toi, là.
Tout à fait.
Tu sais, sincèrement. Fait que c'est sûr que... Alors, bon, tu sais...
Et pourtant, ça vient d'une fille, Anne-Marie Cadieux, pour pas la nommer, qui... Mon Dieu, quelle carrière! Je veux dire, j'ai de la misère à t'imaginer... de tourner les pouces, pas avoir de job, puis de sombrer dans une dépression, puis être sur l'aide sociale. Je veux dire, t'as pas manqué d'emploi vraiment depuis combien d'années?
Ouais, mais c'est quelque chose... Tu sais, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai été vraiment pauvre, là. dans la vingtaine, j'étais pauvre, là, comme je peux pas aller prendre une bière, tu sais.
Okay.
Je peux pas sortir, je peux pas, je sais pas si je peux me payer un appartement. Fait que c'est quelque chose que j'ai senti parce qu'on choisit ce métier-là en se disant, tu sais, j'ai pas pensé, tu sais, je pensais pas à ça, l'argent, nécessairement au départ, tu sais. Puis ça avait pas été dans... On m'avait pas inculqué ça, tu sais, mes parents ont pas fait « Oui, il faut que tu fasses de l'argent ». C'était pas ça du tout. Ils parlaient pas de ça, tu sais, c'était comme « Fais ce que tu aimes ». Bon, ils sont inquiétés. Fait que j'ai connu des années de précarité.
Mm-hmm.
Puis c'est un métier de précarité aussi. Parce qu'on a beau dire « Ouais, ouais », puis je suis toujours consciente de ça. Tu sais, tu le sais, à un moment donné, tu dis « Ah, bon, tu vas-tu travailler ?» Tu sais, c'est un métier où est-ce qu'on est vraiment confronté à la précarité en se disant... Puis même là, tu sais, j'ai 63 ans. Est-ce que, tu sais, je sais jamais ce qui va arriver. Tu sais, j'ai pas de... Tu sais, on n'est pas... C'est pas un métier où est-ce qu'on a... On a une sécurité, tu sais, on n'a pas un fonds de pension. Puis tout ça, fait que, tu sais, c'est sûr que cette affaire-là, je l'ai toujours eu en tête, même jeune, de, tu sais, okay. Mon Dieu... ouais, tu sais. Puis... Ça m'a pris du temps à m'en défaire, puis ça revient, tu sais, ça revient. Donc, j'ai pas la... Tu sais, je suis pas là à faire « ouais », tu sais, mais c'est sûr que j'ai... Là, à l'âge que j'ai, je me dis « ah, j'ai été privilégiée, j'ai évité mm-hmm. des écueils », puis aussi, j'ai pas de propension aux dépendances, hein. Ça, c'est sûr que c'est autre chose, ça.
Ça aide.
Ça aide. Puis je savais pas, jeune, parce que, tu sais, tu te demandes si ça peut arriver, ça, que tu bascules.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, mais c'est quelque chose que je sens profondément, puis je pense que c'est dû à la nature de mon métier, puis de voir aussi que ça peut arriver à tout le monde. Puis j'en vois des acteurs à qui ça arrive à un moment donné, qui vieillissent, puis ils font garde. Tout à coup, ils se retrouvent là, avec rien. Ouais. Que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, on n'est pas des... On n'est pas riches. C'est ce que je veux dire. On n'a pas privilégié ça, donc c'est correct aussi, mais ça veut dire que c'est quelque chose que je porte en moi aussi.
Mm-hmm.
J'aime même pas ça en parler, tu sais ce que je veux dire?
Mm-hmm.
Mais ça fait partie, puis je pense que c'est faut avoir cette capacité à encaisser ça pour ouais. pratiquer le métier qu'on fait.
Mais t'as une belle conscience. T'es conscience. T'as de la conscience, t'as de la gratitude, t'es
oui.
gâtée, mais t'es consciente que ça peut basculer.
Ah ben oui! Mm. Puis aussi, tu sais, bon, regarde, c'est comme ça. Là. Ouais. Mm. Ouais.
63 ans?
Ouais.
C'est un choc, je pensais pas.
Toi, t'as quel âge?
J'ai 59, genre 60.
Ah, t'es plus jeune que moi.
Ouais, mais je vais basculer dans la soixantaine
ouais,
en 2025. Puis je me dis, que ça passe vite.
Incroyable, puis, hein? Il ouais. nous disait ça quand on était petits, puis on faisait off, tu sais.
Discours de mon oncle.
Ah oui, tu sais, on est comme rendu vieux, ça passe. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Là. Surtout après 40, wow. là, c'est comme wow, tu sais.
T'as ouvert une porte tantôt quand tu parlais de tes parents qui sont tous les deux décédés, moi aussi. Alors, tu sais,
ouais.
on se retrouve orphelin.
Ouais.
Veux pas, on a beau avoir des frères et sœurs, on a une fratrie, on a des liens, mais face à soi-même, ça m'est arrivé d'avoir des petits moments de ouf, ils sont plus là.
Ouais, mais moi, c'est drôle parce que Pascal, mon petit, l'actrice, elle avait écrit mm-hmm. un jour, on devrait pas se dire orphelin, on devrait se dire héritier. Puis j'ai trouvé ça beau, plutôt que se penser orphelin, on est héritier parce qu'on hérite aussi des valeurs de nos parents, de ce qu'ils nous ont légués, on est formés d'eux, hein,
C'est quoi les valeurs de tes parents qui t'ont inculqué?
Ah, mes parents, c'était des gens... Mais les deux étaient de milieux assez modestes, je vais te dire, hein, parce que ma mère venait d'une famille où est-ce que... Tu sais, le père était parti, puis la mère les a élevés. Puis tu sais, le père, au début, aller chercher le père à taverne. Mais ma mère, t'aurais jamais pensé ça quand tu la rencontres. Mon Dieu, je fais vibrer la table. parce qu'elle était, tu sais... Puis, tu sais, c'était une famille quand... Bon, en tout cas, fait que, tu sais, ça... Puis, mon père, il venait de l'Orignal, de l'Est ontarien. Père qui passait le pain, tu sais. Puis, lui, il a fait semblant de vouloir devenir curé pour aller aux études. Fait que mes deux parents ont étudié, mais mes deux parents venaient de... Tu sais, ils venaient pas de milieu aisé.
Mm-hmm.
Mais après, bon, on est une famille quand même, tu sais, classe moyenne, là, okay. tu sais. Puis, mes parents, assez de gauche, je te dirais, progressistes. Tu sais, très progressistes. Ma mère, dans les années 60, qui prend la pilule. Donc, féministe aussi.
Wow.
Féministe, très attachée aussi au côté, au Québec, tu sais, social-démocratie. Mmh. Pas de privé, juste du public. Puis que tout le monde, tu sais, contribue à la société. Puis payer des impôts pour que ça profite à d'autres. Fait que ça c'était leur valeur, vraiment. Tu sais, c'était... Donc,
wow.
Oui, oui.
Ta mère et ton père auraient... Ils auraient-tu manifesté pour les carrés rouges, mettons? Ça aurait été leur genre.
Mais ils étaient rendus trop vieux. C'était pas... C'était pas des gens, c'était pas des militants. Hein?
OK.
Non, c'était pas des militants, mais je vais donner un exemple. Là, je vais raconter une anecdote.
Go.
De ma mère. Puis je me permets de la raconter parce que j'ai entendu Stanley... Stanley Volant? Non, le médecin.
C'est Stanley?
C'est ça,
Attends, oui, parce que c'est Volant, c'est
Florent. Okay. Voilà, Stanley Volant, on lui a demandé en ondes, est-ce que vous pensez que du fait que vous soyez autochtone, vous devez être meilleur que les autres? Puis il a dit oui, qu'il sentait qu'il fallait qu'il soit meilleur. Et je me souviens d'une anecdote. Ma sœur, plongée dans les années 60, ma sœur Isabelle fait une crise d'appendicite. Mi-60, là. Puis là, il faut qu'on la rentre à l'hôpital, il faut qu'elle opère d'urgence. Et ma mère, on lui demande... Puis là, ça parle d'une société. On a un chirurgien noir. Est-ce que vous acceptez que votre fille se fasse opérer par un chirurgien noir? Mais elle se fait poser cette question-là. Et sa réponse, c'est « Eh mon Dieu, il doit être meilleur que tout le monde.
Oh. » Wow!
Elle dit « Avec grand plaisir, ça doit être le meilleur chirurgien de votre hôpital. » Parce que s'il s'est rendu là avec tout le racisme qu'il y a, c'est sûr qu'il est bon. Puis effectivement, il était bon. Mais je trouve que c'est une réponse, tu sais, qu'il la décrit bien.
Wow!
Tu sais, puis ça décrit le Québec que quand même que tu appelles quelqu'un pour lui demander ça, ça décrit qu'on a fait quand même du chemin, quoique.
Hein? Oui, oui, oui.
Mais tu vois, alors c'était pas quelqu'un qui était, tu sais, fermé. Tu sais, c'était pas quelqu'un qui était fermé d'esprit. Elle avait tellement conscience. Puis elle me disait même quand on était jeune, parce qu'elle était féministe, puis elle disait être femme difficile, être femme noire encore plus difficile, être femme noire pauvre encore plus difficile. Donc, elle était aussi consciente de ses privilèges. Donc, c'est ça, j'ai été quand même élevée dans la conscience. Tu sais, pas, oh mon Dieu, les autres. Tu sais, puis aussi, comme je disais, quand ma mère était. À l'hôpital, parce qu'elle a reçu l'aide médicale à mourir, puis elle disait « Ah, oh, c'est fantastique, regarde. » Elle aimait, elle regardait les services qu'on a, quand même, parce qu'on critique, c'est sûr, que le système de santé. Il y a beaucoup, beaucoup d'écueils. Puis moi, j'ai peur que ça... Puis cette question-là, justement, de moi d'avoir peur que ça te bascule au privé, c'est parce que j'ai les valeurs de mes parents, là, de toute génération qui s'est battue pour qu'on ait des services au public, dans les écoles, partout. Fait que... Fait que ça m'a marqué. Tu sais, tu me demandes les valeurs. Je sais pas si toi, de ton côté... on y revient dès que je finis. Fait que là, c'est sûr. Puis là, elle était reconnaissante. Puis elle dit, regarde, c'est fantastique. Regarde, c'est parce qu'une fois que tu es dans le système, c'est fantastique les services qu'on a. Tu sais,
oui.
Je veux dire. Puis les gens, comment ils sont dévoués, puis comment ils sont compétents, puis tout ça. Donc, elle était reconnaissante, tu sais.
L'aide médicale à mourir, donc, ça fait pas si longtemps que ta maman est décédée.
Non, elle est décédée pendant la pandémie. Ouais.
Wow.
Ouais.
Tu l'as vécu comment? Cette mort-là, cette fin-là de ta maman, avec l'aide médicale à mourir.
Vraiment extraordinaire.
Ah oui.
Vraiment extraordinaire. Parce que je sais qu'il y a des expériences qui sont peut-être, parce que dernièrement, il y a eu des... Mais pour nous, parce que quand ma mère... Je ne vais pas tout raconter, puis ça va être bien long, là. Mais quand elle a su qu'elle avait un cancer, puis là, elle sortait en plus, on sortait de la pandémie où elle avait été hospitalisée pendant 5 mois. Isolée, tu sais, puis elle a appris ça à ce moment-là, puis ça sortait d'une dépression. Tu sais, je ne peux pas t'expliquer, mais c'était compliqué. Puis là, elle était bien. Puis elle m'a dit, oh, non, je vais vivre. Puis à un moment donné, moi, je savais qu'au bout de 2 semaines, je dis, tu as le droit à l'aide médicale à mourir, parce qu'on en avait déjà discuté ensemble.
OK.
C'était quelque chose qui, tu sais, ça la. Tu sais, puis quand elle n'avait pas le droit, je disais, maman, tu sais. Tu n'as pas droit, tu sais. Et puis là, elle a dit non. Puis après ça, elle a dit, je veux avoir l'aide médicale à mourir. Puis ils ont été tellement... C'était des femmes, hein? Son oncologue était femme.
OK.
Et puis là, elle a dit, d'accord. Puis après ça, l'anesthésiste qui l'a évalué, c'était une femme. Puis ce qu'il a reçu au CHUM, puis on était en pleine pandémie, où est-ce qu'ils ont dit, je pense que votre mère n'est pas bien, qu'on la rentre tout de suite. Et effectivement, le lendemain, c'était refermé les hôpitaux. Donc, on est très privilégiés, puis ils ont été d'une telle humanité. Je vais te le dire, tu sais, c'est la COVID. Je me souviens d'une infirmière, Geneviève, là. Elle s'appelle Geneviève. Elle m'a dit, je prépare votre mère. Elle a dit, je prépare quelque chose, je vais vous rappeler. Puis elle n'attendra pas. Puis on va essayer. Elle a dit, je sens qu'il faut qu'elle... Puis là, on est arrivé au 14e, puis c'était la COVID, mais elle l'a prise dans ses bras. Puis elle a dit, on est tellement privilégiés que vous soyez là. Puis racontez-moi votre vie. Tu sais, c'était humain.
Wow.
Puis vous avez eu des enfants. Oui, puis là, ma mère, tu sais, elle s'est... Tu sais... Puis elle prenait les mains, puis tu sais, sincèrement, c'était vraiment beau. Puis là, j'ai vu ma mère, tu sais, elles sont tellement gentilles. Puis là, s'épanouir avant sa mort, puis ça s'est fait très, très bien. Dignité, humanité, respect. Puis là, tu sais, quand même, c'est sûr que c'est quelque chose de très violent, hein, T'sais, c'est quand même, c'est la mort là, qui s'en vient. Mais la veille, ma mère, elle disait, bon, faut que je lise mon devoir. Là. Venez pas trop tôt demain. Elle avait des... Parce qu'on a, t'sais, on a été là, ses filles étaient là parce qu'on avait le droit d'être là. Puis ce que j'ai trouvé quand même dans la mort, le plus petit rencontre le plus grand et le plus profond.
En même temps.
En même temps, parce que, t'sais, j'avais une amie qui m'a donné, qui m'a laissé sur le pas de ma porte. T'sais, quand on parle de gentillesse, là, parce que la veille, j'avais mangé des kiwis chez elle, jaunes et rouges. Puis elle a dit, ben, tu pourras en donner à ta mère. Ben, je dis, je peux pas, là, j'aurai pas le temps. Bien, elle s'était levée à 7 heures le matin, elle m'en avait mis au pas de ma porte. J'en ai apporté à ma mère. Ma mère, elle disait, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est beau, puis c'est bon. Tu sais, elle était juste avant la mort, mais elle s'émerveillait encore. Fait que, il y avait toutes sortes de petits gestes. Fait que, t'as le grand puis le petit. Qu'est-ce que je porte? Puis, en tout cas, mais ça a été. Puis, tu sais, moi, je trouvais qu'elle est partie. Je trouve que. On est chanceux au Québec. Moi, j'ai entendu beaucoup de témoignages de gens qui ont dit on n'a pas ça en France, parce que sur Facebook, j'en ai parlé. Moi, ma mère est partie ou mon père est parti d'une manière horrible. Puis là, elle est partie sereine. On était là. On a eu le temps de parler. On a eu le temps de... Ça a été vraiment beau. Elle est partie doucement. Puis c'est sûr que, tu sais... Fait que, tu sais, je trouvais que c'était la... Mon père, c'est pas comme ça qu'il est parti. Moi, je trouvais que c'était... C'est fantastique, tu sais, de partir d'une manière qu'elle avait 88 ans. Elle savait qu'un an plus tard, elle allait mourir, là, tu sais, dans le sens que, bon, tu... Mais je trouve que... Fait que je sais pas, toi, comment tes parents... ton père, ça s'est fait...
Oh, papa, il est mort à la maison Saint-Raphaël, dans la dignité, sans l'aide médicale à mourir.
C'est ça.
Parce qu'il y avait aussi la foi, mais aussi parce que papa était full dans la démence, donc il avait probablement
Il avait même pas conscience.
Non, exactement. Puis tu sais, quand tu me parles de ton père, c'était combien d'années? Ça fait longtemps, ton papa?
Non, mon père, les deux sont morts à 88, mais mon père avait 6 ans de plus que ma mère, fait qu'il est mort 6 ans plus tôt. Oh, oui.
Et lui, il avait pas l'aide médicale à mourir, mais ça n'a pas été le fun, tu dis?
Bien, c'est-à-dire, non, ça n'a pas été comme... Ça s'est quand même fait assez vite, mais il commençait à sombrer dans la démence un peu. Mm-hmm. Puis j'ai trouvé ça dur parce qu'on l'a vu le matin, puis... Tu sais, il est mort. On n'était pas là. Tu comprends ce que je veux dire? L'après-midi, nous ont appelés. Puis là, ça m'a fait... Mais tellement de peine, tu sais. Mm-hmm. Tu sais, même si je pense qu'il s'en rendait... Tu sais, c'est peut-être... Mais c'est moi, là, ça m'a... J'ai trouvé ça, tu sais, je fais... Moi, en tout cas, ça m'a... Tu sais, mais heureusement, on l'avait vu le matin, tout ça. Puis la veille, on est allé, puis il est mort le jour de Noël, tu sais. Mais ça, tu sais, ça m'avait fait... Ça m'a déchiré le cœur, ça, vraiment. Tu sais, même si je pense qu'il aurait peut-être pas été conscient, mais je sais pas, j'aurais voulu. Puis c'est donc... Puis tu sais, la mort, c'est quand même quelque chose de... C'est violent de toute façon, tu sais, la mort de nos parents. Fait que c'est, tu sais, fait que c'est très puissant. Puis j'ai souvent dit, on a quand même la chance de les accompagner. Si on a la chance de les accompagner avant, c'est un cadeau extraordinaire. Juste dans les mois qui se précèdent, dans les années qui se précèdent. Ouais.
C'est un cadeau qu'on déballe pour le restant de nos jours. Puis quelle ironie, un cadeau, mourir le jour de Noël en plus.
Ah, mais je me suis dit, il voulait qu'on se souvienne de lui. Il a fait une vraie belle sortie. Qu'on puisse associer un jour. Mais c'est correct. Mais tu sais,
il a punché en sortant, lui.
Mais je me dis quand même qu'on est chanceux. Tu sais, moi, pour ma part, mais je sais que pense... T'sais, que mes deux parents soient morts à un âge quand même. Est-ce qu'on s'attend à ce que nos parents meurent? Mais tu sais, c'est drôle, tu parles du cadeau parce que toi, tu t'es occupé de
De mon père, lui. Pas de ma mère, parce que ma mère avait 49 ans.
Mais c'est ça, elle était très jeune, 26, mais ça, c'est jeune. Triste, ça.
Ben oui, très triste. Par contre, ton père, il a eu le don de puncher en sortant, mourir un 25 décembre, puis tu vois... Tu sais, nous autres, habituellement, la formule de l'émission, c'est qu'on fait une demi-heure, tu sais. Mais là, on a dépassé...
Hey, c'est vrai, tu fais-tu juste une demi-heure? Mon Dieu, je pensais que c'était une heure.
On fait une heure. C'est que la deuxième demi-heure, on s'en va complètement ailleurs.
OK, bien bon, on s'en va ailleurs.
Ben, c'est ça que je vais te proposer. Alors, vous avez peut-être reconnu la voix d'Anne-Marie Cadieux, ici Jean-Marie Lapointe. Vous écoutez Porte-parole sur Canal M. Alors, vous écoutez Porte-parole diffusée sur Canal M. Je suis avec Anne-Marie Cadieux et pendant la transition musicale, tu es en train de parler de ta mère de vie à quelques minutes, quelques heures d'avoir la musicale à mourir.
Mais c'est... Qu'est-ce que
c'est? C'est drôle avec les bas, la barrette.
Ah oui, ma mère, veux-tu que je te maquille? Non, je veux partir comme t'es arrivée. Exactement, mais elle voulait garder ta petite barrette quand même. Okay, puis après ça, c'était comme... Ma soeur avait acheté des petites chaussettes, très jolies, puis elle dit... Ben, gardez-les, vous les enlèverez pour les garder après. Je dis, ben oui, on va. Tu comprends-tu, c'était fou, là. Tu sais, des petites choses du quotidien, ça la préoccupait encore. Qu'est-ce que je vais. Tu sais,
à quelques instants, tu la mords.
Ben oui, c'est ça que le grand et le petit se côtoient, c'est ça dans la vie, là, tu sais.
Tu sais, l'émission Porte-Parole, ce que j'aime, c'est qu'on est dans l'intimité de notre invité. On parle de ses valeurs, l'éducation, ton rôle engagé. Peu importe c'est quoi la cause, que tu le sois présentement ou que tu l'as été, tu fites dans les critères de sélection. T'es correct. Puis la deuxième partie de l'émission, ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment aléatoire.
Tu sais, des trucs, là.
C'est plein de questions.
OK.
Et c'est toi qui les lis.
Je les pose?
Non. Tu te les poses à toi.
Ouais.
C'est toi qui
Puis si je n'aime pas la question...
Il y en a à peu près 100.
Innocent.
Tu me traites d'innocent?
Oui. As-tu des regrets? Ah, ben, Colin, c'est sûr.
Ah oui, de?
Ah, tellement. Premièrement, je n'ai pas d'enfant.
OK.
Je pourrais dire que c'est un regret. Puis là, il faut faire bien attention quand je dis ça parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas d'enfant qui ne le regrettent pas. Là. Je ne dis pas que si tu n'as pas d'enfant...
T'as raté ta vie.
Ah, pas du tout. Puis moi, j'ai plein d'amis, j'ai de tout. Mais sincèrement, je le regrette. Puis il y a eu beaucoup de raisons pour lesquelles il y a eu toutes sortes de circonstances. Je veux pas vraiment rentrer là-dedans, ça c'est un petit peu plus... je pense quand même que c'est une belle aventure, tu sais. Puis je me dis quand même, ben ça, tu l'auras pas vécu. Puis là, je peux pas la vivre, je suis une femme. Peut-être qu'un homme peut la vivre jusqu'à très tard, on le voit. Hein? Al Pacino, 80, je sais pas quelle année.
De Niro.
Oh, oui, c'est bon, en tout cas, qu'on soit d'accord ou pas. Mais comme femme, évidemment, tu as l'horloge biologique, puis après ça, tu es confrontée à ça. Donc, puis aussi, tu sais, je pense que tu le sais, je viens d'un milieu familial où il y a eu beaucoup de problèmes de santé mentale. Il y a eu des choses comme ça où j'ai dû, tu sais, qui m'ont fait peur, puis moi-même, puis tout ça. Fait que, mais... Tu vois, mais par contre, j'ai des enfants dans ma vie. Puis, tu sais, en ce moment, comme je disais, comme mon filleul a 5 ans, je suis comme une grand-mère. Tu sais, j'ai fort. Fait que la vie est belle parce que la vie apporte des cadeaux. Puis ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait, là, tu sais. Mais j'ai milité, là. Mais j'ai fait des pressions, mais c'est drôle, on fait toujours ça. Puis là, les parents me disaient, je suis sûre, ça va dépendre de comment tu agis. Puis on riait, mais c'est un vrai cadeau qu'on m'a fait. Puis aussi que j'ai un rapport si proche. C'est pas genre une marraine. Tu sais, je suis une marraine de 3 fois par semaine, tu sais, ce que je veux dire.
Oh, t'es engagée dans ton rôle, toi.
Je suis très engagée dans mon rôle de marraine. Oui, extrêmement. Oui, oui, donc, puis tu sais, j'en tire énormément. C'est beaucoup de joie. Énormément de joie. Fait que je te dirais ça. Après ça, c'est une autre question.
Bon, non, mais après ça,
Non, non, mais des regrets. Moi, je pense qu'un être humain qui dit qu'il n'y a pas de regrets, c'est pas un être humain. Toi, t'en as-tu des regrets?
C'est sûr.
Mais tu veux pas en parler?
Oh, ben c'est parce que quand tu feras ton propre balado, tu m'inviteras,
tu
me poseras tes questions.
Oui. Tu sais, j'ai pas de... Parce qu'on rêve à toutes sortes de choses quand on est... On doit renoncer. Quand on fait des choix, on renonce.
Ce à quoi on dit oui, c'est parce qu'on dit non à autre chose.
Exactement, puis ça, faut accepter ça. Puis aussi, comme je te disais, tu vas avoir 60. Puis à un moment donné, là, c'est la première fois de ma vie que je me dis des fois, oh, ça, peut-être que tu le feras pas, tu sais.
Oui. Des petits deuils.
Fait que c'est sûr que de dire j'ai pas de regrets dans ma vie, j'en entends des fois des gens dire ça, puis je fais, ben, coudonc, tu sais. Faut essayer de faire la paix avec les choses qu'on n'a pas faites aussi, puis dire, ben, mais je suis dure avec moi-même, cela dit.
Bon.
Hein?
D'accord.
On n'est pas, tu sais, je suis capable de m'enfoncer, tu sais. Je te dis ça tout de suite. Là.
De m'enfoncer.
Oui, oui, je suis capable d'être dure avec moi-même. Mais c'est pas comme ça.
Mais en même temps, il y a un fond de bienveillance envers moi qui me sauve. Toute ma démarche bouddhiste, de beaucoup de
t'as vraiment travaillé là-dessus.
Ben, ça me sauve.
C'est ça, t'es allé là. Ben, c'est ça, t'es allé pour pas t'enfoncer. Là. Mais
clairement.
Ouais,
clairement.
La chose pour laquelle tu es la plus reconnaissante dans la vie, ben, c'est ça, c'est... My Colin... C'est mes amitiés, c'est mes liens. Je te dirais ça, la reconnaissance, la famille aussi. Là, je me rends compte, tu sais, c'est des bilans. J'étais chanceuse. Des bilans. Je fais un bilan. Rendu à 60, à l'âge que j'ai, on peut faire un petit bilan de voir la chance qu'on a eue.
Ouais.
Parce que quand t'es jeune, tu sais, t'es tout dans. Tu veux t'accomplir, t'as soif. Et tu vois pas les cadeaux qu'on te fait. Puis après, tu peux voir, ça, c'est des cadeaux. Puis les belles rencontres que j'ai faites dans ma vie. les grandes rencontres, autant professionnelles que personnelles, ça, pour moi, c'est pas mal le plus beau cadeau. T'sais.
On est riche de nos liens.
Mais vraiment, il n'y a que ça, finalement.
Ah, je suis d'accord avec toi. Puis moi aussi, j'ai pas d'enfant. J'ai une copine qui a une fille. Mais je me rends compte que à défaut d'avoir des enfants, j'ai eu l'heureux réflexe de créer des liens.
C'est sûr.
Avec des racines qui s'enfoncent loin dans le sol, avec des amitiés solides. Et je me dis, quelle richesse.
Oui.
Quelle richesse.
Puis aussi, on peut continuer. Ça va être mon message optimiste, là. Parce que moi, après 50 ans, je pensais pas que je me ferais d'autres amis, je veux dire profonds.
Ah, des nouvelles.
Des nouvelles, mais tu sais, oui, des connaissances, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais je me disais, tu sais, j'ai des amis de longue date. J'ai pas d'amis d'enfance parce que l'enfance, on est beaucoup déménagé, donc j'ai des amis à partir de 15-16 ans, tu sais, que j'ai depuis longtemps. Des amitiés qui durent depuis 40 ans et plus, tu sais, donc j'ai ça, mais j'ai des amis... Des grands amis que j'ai rencontrés, même récemment, là, où on a des amitiés profondes. Ça, je trouve que la vie, finalement, elle recèle toujours des cadeaux puis des surprises. On est toujours surpris par ce qui nous arrive. Mais évidemment, il faut peut-être, comme Monique Simard dit, se mettre dans le trafic un peu.
Oui, il faut s'exposer.
Oui, puis c'est sûr que mon métier, notre métier, c'est un métier où on est en contact avec les gens. Fait qu'on ne développe pas des amitiés avec tout le monde. Des fois, c'est des belles relations, mais des amitiés... Hey, c'est fantastique, là. Puis avec des gens de tous les âges. Puis c'est ça, moi, ça, c'est mon cadeau, c'est ma richesse, c'est mon bagage.
T'sais. Tellement.
Je suis reconnaissante de ça.
Bravo.
Il n'y a pas de mauvaise réponse.
Non, t'es parfaite.
Hein? Il n'y en a pas. Il y en a...
Anne-Marie Cadieux est parfaite.
C'est Anne-Marie Cadieux. Oui. Si tu pouvais changer une chose dans la façon dont tu as été éduquée, ce serait quoi? Bien, c'est ça, si je te disais, on parlait de ça que. Je suis pas. Tu sais, j'ai pas l'âme militante. J'admire, oui, je suis militante au quotidien, tu sais. Je fais bien attention. Moi, là, il y a beaucoup de choses qui me préoccupent. Tu sais, moi, je me souviens, j'en parlais pas, mais quand j'étais à Plus on est de fous, plus on lit, je lisais des livres écrits par les femmes. J'en parlais pas, mais c'était ma façon d'être militante pour dire.
Ah oui, OK. Ça,
mais j'en parlais pas. Mais c'était des choix que je faisais. Je fais toujours attention, tu sais. Mais j'admire beaucoup, puis je me dis que j'avais eu des parents. Mais ma mère, tu sais, elle partait. Tu sais, ma mère, je pense, que, partant d'un milieu, puis aller dans un autre, elle m'a montré toutes sortes de choses. Mais mon père aussi, l'amour des arts, l'amour, on nous ont fait voyager, il y a beaucoup de choses où je suis reconnaissante. Mais quand je regarde les militants, je vois que leurs parents aussi avaient ce côté-là.
Ben oui.
Puis ça, donc, ça se transmet.
Ben Vincent Gratton.
Oui, ben Vincent, je l'écoute.
Ça en est un exemple, ça. Ses parents étaient militants.
Mais ben Vincent, j'ai fait mon secondaire, une partie de mon secondaire avec lui, puis je dis, il y avait une pancarte au bout du bras, il avait 15 ans. Là. Lui, il était déjà militant. Là.
Ben oui.
Je m'en souviens, avec son cheveu long, puis il était déjà enflammé.
Ben oui.
Fait que je pense que ça se transmet. Et ça, tu sais, puis j'ai beaucoup... Tu sais, j'ai rencontré Alanis Obomsawin, tu sais, 92 ans, militante. Là, les vrais militants, là, c'est-à-dire artiste et militant. J'ai beaucoup d'admiration, là, des gens qui, tu sais, qui... ce qu'ils vont au front, parce
t'sais,
que c'est pas toujours facile.
La nouvelle génération, les Léa Clermont-Dion.
Ah, fantastique!
Là, c'est des beaux modèles.
Oui, exactement. Là, puis en plus, pour le féminisme, c'est intéressant, parce que moi, j'ai vécu la période où est-ce que le féminisme avait plus la cote.
Ben oui.
T'sais, le monde était là, ça s'était pas bien vu. Puis de voir la jeune génération être hyper féministe, hyper engagée, prendre la parole, militer. J'ai pas vu son dernier film, Léa, mais j'ai vu l'autre... je vous salue, salope. Je dis, oh, oui, c'est extraordinaire. Elle est très. Ou même des Jeannette Bertrand. Tu regardes Jeannette Bertrand. Ça, tu sais, fait que ça, je pourrais dire que c'est pas que j'aurais changé quelque chose parce que j'accepte ce que j'ai eu. Puis je trouve que j'ai eu beaucoup, beaucoup de privilèges. Puis beaucoup ils m'ont beaucoup donné. Mais ça, je me pose toujours cette question-là, tu sais. Ouais. Y a-t-il quelque chose que tu rêves de faire depuis longtemps? Pourquoi n'as-tu pas... Moi, je fais pas mal ce que...
Ah ouais?
Non, qu'est-ce que tu rêves de faire depuis longtemps? Pourquoi n'as-tu pas réalisé? Il faut que je pense.
OK. Puis, sais-tu, tu peux donner le réflexe à ta bouche de parler à voix haute? Parce que là, tu la lis en silence.
Ah, il fallait que je la lise! Ah, tout est... Mais oui, excusez, je suis comme... On est tellement en conversation. Y a-t-il quelque chose que tu rêves de faire depuis longtemps? Pourquoi ne l'as-tu pas réalisé? Hé, hey, là, ça y est, tu me critiques, j'aime pas ça. C'est parce que tu ne m'avais pas donné le titre.
Je ne t'avais pas donné
le mode d'emploi. Là. Y a-t-il, parce que les autres questions, vous les avez comprises. Là,
oui,
tu les regrets.
Oui.
Bon, alors, y a-t-il quelque chose que tu rêves de faire depuis longtemps? Je ne sais pas. Je ne pense pas à ça.
Tu fais pas mal ce que tu as envie puis de ce que tu rêves
de
faire.
Oui, je voulais aller en Inde. Je suis allée. Ça, c'était la dernière chose que j'ai faite avant la pandémie. Je suis allée en Inde. Puis
j'arrive de l'Inde. Là.
Ah!
Oui,
t'étais où?
L'Inde du Sud, puis je suis allée faire l'Inde du Nord en 2018.
Bien, moi, je veux faire l'Inde du Nord. J'ai fait l'Inde du Sud.
Pondichéry.
Ah oui.
C'est une belle ville coloniale. L'Inde du Nord, là, moi, j'ai adoré.
Ben, c'est ce que je vais faire. Mais j'ai fait Varanasi quand même, où est-ce qu'on brûle les morts. Es-tu allé, là?
Ben oui.
Ouais, c'est extraordinaire, ça. Donc.
Ça a été bouleversant.
Oui.
L'Inde du Nord m'a bouleversé en maudit.
Ce serait bon. Ben, tu vois, ça sera mon. Ça, c'est un truc que je rêve de faire. Puis j'avais rêvé toute ma vie, depuis que je suis enfant, d'aller en Inde. Puis je suis allée un petit peu avant la pandémie en me disant. Écoute, t'attends.
On s'est croisés parce que je suis allé en 2018. Avant la pandémie, c'est 2020, donc je ne sais pas quelle année.
Je suis allé en 2000, ouais, à peu près là, 2018-2019, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Ta maison passe au feu avec toutes tes possessions. Après avoir sauvé ta famille et tes animaux, si tu en as, aimes-tu ça que je parle fort, tu as le temps de récupérer une seule chose, c'est quoi? Ma correspondance.
Qu'est-ce
Les
que
lettres. Ah, j'ai des boîtes de lettres.
Hein?
Des boîtes et des boîtes de lettres à l'époque où on écrivait.
Mm-hmm.
Oui, beaucoup de boîtes de lettres. Et puis, j'ai les correspondances aussi entre ma mère et mon père quand ils étaient au théâtre. Il y avait, tu sais, tout ça. Donc, ma correspondance et les photos, tu sais, ça serait ça. Là. Donc, encore le lien, hein? C'est ça qui nous compte le reste. Bon, écoute.
Je le vois.
Hein?
Tu es très cohérente.
Je suis cohérente.
Solide.
Ouais. Il y a tellement de questions.
Ah oui, il y en a plein. On les passe.
Alors, celle-là est écrite à la main.
C'est quoi?
Quelle est la plus belle phrase que tu as entendue de toute ta vie? Je peux pas répondre à ça. Bon.
Pourquoi?
Mais parce que ça me vient pas en tête, la plus belle phrase. Pas parce que je suis contre ta question, mais la plus belle phrase.
C'est tough à trouver.
Ben, tu sais, ça se pourrait que j'y pense, là, puis que là, je retourne dans mes citations.
Surtout pour une actrice, tu en as lu du monde, tu en as lu des textes.
Oui, oui. Ben là, je vais répondre les mêmes choses. Là, le bonheur, c'est quoi? Là, je vais te répondre des choses que j'ai déjà dites. Fait que je vais essayer d'aller... Que signifie le mot amitié pour toi? Le mot amitié, c'est pas mal, ça veut dire inconditionnel. Amitié, ça veut dire l'amour inconditionnel, c'est ce qu'on souhaiterait en amitié. Parce qu'il y a des amis, des fois, on se dit, ben, bon, tu sais, c'est peut-être pas... Des fois, tu sais, on a des déceptions, là. Mais c'est correct, tu sais.
Ben oui.
Regarde, tu vas-tu les achaler avec ça, là? Mais ça, c'est mon point de vue.
C'est bon.
Aime-les comme ils sont, puis avec les défauts et les qualités, tant qu'il y a de la loyauté.
Ah oui, je comprends. Puis ça, quand je t'entends dans ce sens-là, c'est qu'il y a quelque chose qui... T'es une fille mauditement ouverte d'esprit, dans le sens qu'il y a un mot que j'aime pas tant, c'est le mot tolérance. Mais toi, t'as l'ouverture. T'as plus que juste de la tolérance de la différence, c'est que t'as une belle ouverture.
Ben, je pense que oui, j'espère, là. Mais c'est ça, mais je pense quand même aussi que quand nos amitiés sont riches et qu'elles durent depuis très, 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 très longtemps, pour mettre fin à une amitié, il faut vraiment que ce soit majeur, t'sais.
Ben oui.
Fait que les détails, les petits trucs...
La trahison,
trucs,
à l'opposé de la loyauté, ce qui peut mettre un terme à une relation, c'est la trahison.
Oui, puis aussi, tu sais, je dois dire, j'ai un défaut quand même, je suis un peu rancunière.
OK.
Le pardon, tu sais, à dire que je pardonne, mais j'oublie pas.
Mm-hmm.
J'ai un petit côté, mais... Tant qu'il n'y a pas de... Tu sais, quand il y a quelque chose de riche, là, le reste, tu fais, bon, je vais passer par-dessus ça, tu sais,
exact. Non? Oui, oui.
Ouais, non?
Ben, je pense... Bon,
comme ça,
je suis d'accord avec toi. En fait, je vais pardonner, mais j'oublie pas. Parce que
comme
moi, là,
c'est ça, t'es
trop
comme
bon,
moi.
Trop con, j'étais ça.
Toi, t'es ouais, moi, je suis plus... moi, je suis plus... tu sais, je me protège plus que toi.
Peut-être.
Puis je suis plus... Tu sais, toi, t'es une âme toute ouverte. Non?
Ben, j'aimerais ça dire que je suis comme un dépanneur, là, ouvert 24 sur 24, c'est pas vrai.
Non.
Mais j'essaie d'être le plus ouvert possible parce que je suis pas parfait. Puis, tu sais, je dis souvent la blague, le dernier gars parfait, on l'a crucifié il y a 2000 ans. Donc, quelque part, je te dirais que si moi j'ai droit à l'erreur, je dois accepter que l'autre aussi.
T'sais. Oui, oui, puis. Ouais. Exactement.
Voilà.
Voilà.
Hein. Voilà. Next. Prochaine
Next.
Question.
Quelle a été la plus grande déception de ta vie? Ben oui, une peine d'amitié.
Ah, oh, ça fait mal.
Ouais, j'ai eu une peine d'amitié, ça, ça a été vraiment difficile. Je pensais pas que ce serait si difficile. En fait, c'est parce que toi, t'aimes, donc il y a quelque chose comme tu sens pire que des peines d'amour pour moi.
Mmh.
Tu sais, vraiment pire. J'en ai eu des, bon Dieu, j'ai pleuré, là, Jean-Marie. Mmh. Je me suis roulée là, à terre, sur le plancher.
Mmh. Je t'imagine.
Mais la peine d'amitié, c'est quelque chose qui m'a... Ça a pris du temps, là. Oh, c'est réglé, mais c'est... parce que j'ai... T'sais... Mais on dirait que quand ça m'est arrivé, j'ai trouvé ça tellement difficile, j'ai eu du temps. Puis en fait, c'est d'autres amitiés qui m'ont réparé.
Mais exactement, c'est ça qui est merveilleux. Tu sais, t'as été réparé,
oui.
Mais est-ce que cette peine d'amitié-là, t'as pu lui dire à l'autre
non.
que t'étais parti ailleurs, vous vous êtes pas retrouvé, vous avez pas fait cette espèce de closure-là?
Non, il y a pas eu de closure. Ce que j'ai trouvé difficile, parce que moi, j'aime pas ça. Je suis pas une fille, j'aime pas rester dans le conflit, puis tout ça. Puis c'est... Mais... c'est correct, tu sais. On peut... Mais il y a pas eu... Il y a eu un long temps où j'aurais voulu ça. Mais regarde, c'est correct. Puis j'ai eu toutes sortes d'autres belles choses qui me sont arrivées dans ma vie, toutes sortes d'autres belles amitiés. Mais ça a été... il y a eu un moment, quelques années, que ça a été difficile pour moi.
Ce qui est intéressant dans ce que tu dis et ce que ça sous-entend, c'est que cette amitié-là qui prenait beaucoup de place, lorsqu'elle n'est plus, il y a de la place à combler.
Oui, sûrement.
Et ça a été comblé.
Mais ça a été pas immédiat puis pas si facile pour moi. C'est drôle, hein?
Dernière question.
Dernière, puis après ça, si je m'en vais.
Conclusion.
Ben oui. Si tu veux que je m'en aille, hein, c'est cette année de me voir.
Pas du tout. Oh,
arrête.
J'en ai plus deux,
mais... Attends, je vais choisir celle que j'aime le plus.
Bonne idée.
Ah, au paradis, mettons qu'il existe.
Oui.
Qui as-tu hâte de retrouver? Et pourquoi? Ben, tu sais, écoute, on revient... Là, tu vas me faire pleurer. Parce que moi, j'ai un frère qui est mort quand il était très jeune. Fait que j'aimerais bien le retrouver.
Oh.
Voilà.
Il avait quel âge?
22, 23.
Et toi?
15, 16. Là,
oh.
Ça. Ouais.
Oh, ça fait mal, ça.
Ouais.
Aïe, aïe.
Mais il est quand même toujours en moi. C'est drôle parce que, une belle phrase tout à l'heure, t'as vu, tu m'as demandé une belle phrase.
Mm-hmm.
Le tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Ça, c'est de Jean Cocteau.
Je sais pas.
Mais c'est vrai.
Parce que
les morts, où est-ce qu'ils vivent? Dans le cœur des vivants,
dans le
cœur de ceux qui les ont aimés.
Je vais te faire sourire. La mort met fin à une vie, mais pas à la relation.
Exactement.
C'est
beau,
c'est
un peu ça. Hein?
Marie de Henzel. Ouais.
Ouais.
Anne-Marie Cadieu, tu vas terminer avec cette question-là. Tu vas la compléter, en fait. Anne-Marie Cadieu, c'est 3 petits points. Tu complètes ça comment?
Mais c'est une femme qui... Et qui a fait son possible. Je vais te dire, là, c'est pas grandiose, hein? Mais je pense que c'est... Mais tu comprends? Tu sais,
c'est
pas mal ça, là. On est confrontés tous les jours. On fait, regarde, des fois, c'est dur d'accepter, là. Tu sais, c'est ça, juste, j'ai mes limites. J'aurais voulu être tout, mais tu sais, je suis un être humain.
Voilà. Qui a fait son possible.
Ouais.
Merci beaucoup, Anne-Marie. Quelle belle heure.
Merci.
Ça passe vite.
Oui, hein?
Ça passe vite. Je savais que ça allait être le fun. Alors, c'était Anne-Marie Cadieu pour l'émission Porte-parole. J'aimerais remercier Marie-Philippe Lemarbre qui a eu l'idée de créer cette émission-là en ma compagnie. Philippe Lapointe, qui est le directeur de la radio ici, merci. Merci à Jean-Sébastien La Liberté, qui est notre chef de diffusion, à la mise en onde Mathieu Tessier, à la recherche et à la coordination Claire Guérin, et aux réseaux sociaux Gerly Ormelet. Alors, merci d'avoir été avec nous ici, Jean-Marie Lapointe, et on se dit à très bientôt pour une autre émission de Porte-parole.